Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, notre dernier rendez-vous de la semaine. Ce soir, peut-on se passer du clientélisme ? Du courage, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Lionel Royer-Perrot, le nouveau président de 13 Habitats, un des principaux acteurs du logement social en région PACA. Du courage étant donné le défi qu'il s'est fixé, mettre en place un système d'attribution régulier et transparent de ses logements, sans céder au favoritisme ni au clientélisme. Le journal La Provence lui consacrait un article hier, titré « Logement HLM à Marseille, la fin des combines ». Un projet davantage qu'un constat, car comme l'écrit la journaliste au début de son article, si l'on dit aux Marseillais que pour obtenir un HLM, il n'est plus nécessaire de connaître un élu ou de s'engager pour lui, ils vont hausser les épaules en ricanant. Alors l'intention du président de 13 Habitats est évidemment louable. Elle risque toutefois de se heurter à de fortes résistances. C'est qu'on ne change pas d'un seul coup une pratique aussi ancienne, dont les Marseillais n'ont pas le monopole, loin de là. D'autant que ces petits échanges de bons procédés, « je te subventionne si tu votes pour moi », finissent par être un élément structurant de l'organisation sociale de certains territoires. Alors peut-on se passer du clientélisme ? C'est notre sujet du jour. Et j'évoquais la question du logement, mais on pourrait citer bien d'autres exemples. Et ça va être d'ailleurs l'occasion que nous allons avoir ce soir dans cette discussion avec trois invités. À commencer par vous, Philippe Pujol, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, vous avez longtemps travaillé pour le quotidien La Marseillaise, qui vous a valu d'obtenir le prix Albert Londres en 2014. Vous travaillez aujourd'hui à 7.info, c'est un magazine suisse en ligne. Et vous venez de publier aux éditions Les Arènes, La Fabrique du Monstre, 10 ans d'immersion dans les quartiers nord de Marseille, la zone la plus pauvre d'Europe. Pour discuter avec vous, Frédéric Savicky. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vos domaines de recherche, la sociologie des organisations politiques et l'action publique locale notamment. Vous aviez publié, alors c'était il y a longtemps, 1998, au PUF, le clientélisme politique dans les sociétés modernes, ouvrage que vous aviez co-dirigé avec Jean-Louis Briquet, mais vous continuez à vous intéresser à ces questions. Et puis, troisième invitée, elle est au téléphone, c'est Séverine Tessier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la porte-parole et cofondatrice d'Anticor, association fondée en 2002 avec le juge Éric Alphen, dont l'objectif est de lutter contre la corruption et de rétablir l'éthique en politique. Et vous avez publié l'an dernier aux éditions François Bourin, justement, lutter contre la corruption. Alors quand on parle d'un sujet aussi complexe que celui du clientélisme, il faut sans doute commencer par faire un petit effort de définition. Frédéric Savicky, comment est-ce qu'on peut le définir ? Il faut peut-être d'abord dire que le clientélisme, en tout cas ce soir, on va avant tout l'aborder sous l'angle de la relation d'individu à individu. C'est en gros, on peut dire « je te rends des services si tu votes pour moi ». Ce serait une façon de résumer ce qu'est le clientélisme ?
Oui, alors c'est vrai que cette dimension d'échange interindividuel, elle est très souvent mise en avant dans la littérature, soit faite par les anthropologues, par les sociologues, par les politologues. Alors évidemment, dire d'individu en individu, c'est pas n'importe quels individus, hein. C'est aussi une relation qui est dissymétrique, c'est-à-dire ce sont des patrons, des gens qui sont en position de disposer de l'accès prioritaire à certaines ressources, qui les donnent à des gens qui sont en position de clients. Hein.
Alors, en l'occurrence, ce soir, on s'intéresse aux patrons politiques.
Voilà. Les clients en question peuvent être de type très différent, comme les patrons de type très différent. Ça peut être un élu local, ça peut être un responsable de parti politique. Par le passé, ça pouvait être aussi des chefs d'entreprise ou des grands propriétaires terriens. Et puis les clients, ça peut être effectivement des électeurs pauvres, ça peut être aussi des électeurs beaucoup plus aisés pour l'accès à certains biens. Ça peut être aussi des militants, ne l'oublions pas, des gens qui sont membres d'une organisation politique, qui peuvent être aussi des responsables d'organisation, responsables d'une organisation économique, d'une association, etc. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que le clientélisme, c'est quelque chose, enfin, en tout cas le rapport de clientèle, c'est quelque chose qui est très banal. Hein. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est la particularité de certaines sociétés plutôt que d'autres. Alors, on constate, dans la République romaine, romaine comme dans des villes comme Paris ou comme dans des villages. Simplement, ce qui est plus, disons, spécifique, c'est que dans certaines sociétés, dans certains milieux, le clientélisme est le mode d'accès privilégié, on pourrait dire, à la ressource politique, alors que d'autres, il est en concurrence avec d'autres formes d'accès, des programmes plus généraux qui s'adressent à des catégories d'électeurs ou à l'ensemble de la population, par exemple.
Est-ce qu'on peut dire, Philippe Pujol, que c'est particulièrement banal à Marseille ?
Marseille, le clientélisme est assumé, le clientélisme est visible. Il y a assez peu de tabous sur cette question-là, ce qui fait que c'est un sujet d'observation idéal pour des journalistes. Là où, dans d'autres régions ou d'autres zones en France, on a beaucoup plus de difficultés de travailler sur le clientélisme.
Mais il n'y a pas de spécificité. C'est-à-dire que vous avez des élus, des responsables politiques qui vous disent franchement, oui, moi je fais du clientélisme et ça ne pose pas de problème.
Oui, ils font du clientélisme et pour eux c'est quelque chose de positif parce qu'ils aident les gens qui de toute façon viennent à eux leur demander quelque chose. Donc ils ont assimilé que c'est un mode de redistribution des richesses. Après, il y a différents niveaux de clientélisme. Et c'est là que les définitions... On a un mot valise pour beaucoup de choses. Et on a le clientélisme du pauvre, celui qui est assez direct, où on donne directement quelque chose de très concret à des individus. Le plus bas niveau, ça va être carrément de donner de l'argent, des petites sommes, ou de donner des tickets qui permettent d'aller à la piscine, par exemple. Ensuite, on a le clientélisme associatif. Là, on commence à toucher un individu qui lui-même va ramener du monde. Puis on a le clientélisme, on en parlait, celui sur le logement, avec une difficulté aujourd'hui, c'est que les logements sont tellement dégradés que le clientélisme, c'est plutôt de faire sortir des logements sociaux que de les mettre dedans. Aujourd'hui, c'est plutôt ça. Et après, on a plein d'autres clientélismes, mais je vais aller au clientélisme immobilier en bout de chaîne, où là, on a des patrons qui un patron politique qui va arranger par exemple tel promoteur qui lui-même avec des entreprises amies, des sous-traitants amis, etc. On va avoir toute une pyramide de gens qui bénéficient des largesses du politique.
S'ils l'assument aussi bien, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas conscience, enfin en tout cas ils ne le vivent pas comme quelque chose d'immoral. Vous écrivez, Philippe Pujol, les élus ne sont pas foncièrement véreux, ils veulent juste être élus, la plupart sont réellement portés par l'envie d'améliorer le quotidien de leurs administrés.
En fait, si on veut mener à bien son idéologie, son envie, il faut être élu. Et pour être élu dans une ville comme Marseille, il faut être clientéliste. Si on n'est pas clientéliste, on n'est pas élu. Et si on n'est pas élu, on ne peut pas améliorer quelque chose ou en tout cas tenter. Et la difficulté là, c'est que c'est une machine qui tourne à vide, quoi.
Sauf que l'énergie qui est déployée pour faire du clientélisme vous empêche peut-être après d'appliquer votre programme. Ce sera l'objet d'une de nos discussions à suivre, mais je voudrais poursuivre notre tour de table avec Séverine Tessier. Séverine Tessier, donc je rappelle, cofondatrice de l'association Anticor qui lutte contre la corruption. Est-ce que vous assimilez le clientélisme à une forme de corruption ?
Ah oui, très clairement. Pour nous, le clientélisme est une forme institutionnalisée de corruption de la démocratie. L'autre forme étant le lobbying. Et donc institutionnalisée parce qu'elle est inhérente au système électif qui n'est qu'un commerce, un marché aux voix dans la mesure où cela repose d'abord sur la conquête de l'argent, les systèmes d'influence et l'organisation des pouvoirs, l'organisation féodale avec ces jeux de cumul de mandats et de distribution arbitraire de subventions. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Anticor est totalement indépendante. Nous avons refusé d'entrer dans la danse et refusé, au nom de cette indépendance, de demander les subventions.
Pour autant, Séverine Tessier, ça n'est pas une pratique illégale, le clientélisme ?
Ça n'est pas une pratique illégale. Néanmoins, cela constitue une forme de corruption de la démocratie. Toutes les formes de corruption ne sont hélas pas réprimées par le droit. Et donc, puisque je parlais de commerce, si on parle de clientélisme, c'est bien parce que l'on considère l'élection comme un marché aux voix, reposant sur des promesses qui ne sont pas toujours tenues, on le voit bien, et des intérêts de carrière pour des élus organisés dans un système partisan qui est un syndicat d'intérêts. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec Anticor, nous nous engageons aussi dans une démarche très citoyenne en faisant signer des chartes éthiques pour mettre en place des jurys de citoyens tirés au sort et décidant de l'attribution des subventions aux associations.
Frédéric Savicky, le clientélisme comme forme de corruption de la démocratie ?
Je comprends le point de vue qui vient d'être exprimé, hein, tout à fait. C'est un enjeu, c'est-à-dire que la question de la qualification ou de la disqualification du clientélisme fait partie de la lutte politique au sens large du terme. C'est-à-dire que il y a des groupes dans la société qui ont intérêt à maintenir ce type de relation parce qu'effectivement, ça permet de tenir des électorats, des partis politiques et d'autres qui vont s'y opposer. C'est aux États-Unis, par exemple, ça a été très 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 important dans l'histoire américaine, qui a été très marquée. Les grandes villes américaines ont été pendant très très longtemps des grandes machines politiques. Les emplois étaient uniquement donnés à des clients. Donc il y a eu des gens qui se sont soulevés et qui ont protesté contre ça, notamment par le fait que ça empêchait effectivement d'élaborer des politiques publiques, on va dire, qui touchaient l'ensemble de la population. Plutôt que de construire des terrains de sport, on préférait effectivement maintenir les moyens pour les allouer individuellement, parce que le terrain de sport, ça profite à tout le monde, donc à personne en particulier, ça ne crée pas de la dette. En tout cas, c'est la croyance. Donc voilà. Donc il y a des styles d'action politique, effectivement, qui s'opposent. Bon. Alors moi, ce que je pense, c'est que évidemment, le clientélisme ne prospère, si vous voulez, un peu logiquement, quand il y a, on pourrait dire, une pénurie d'accès à des ressources. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des élus marseillais ou autres, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, bah, de toute façon, des logements sociaux, il y en a pas assez pour tout le monde. Et donc, on va donner la priorité à un certain nombre de... Alors, ils vous disent, on donne la priorité à des pauvres, à des gens qui en ont vraiment besoin, et ils espèrent ainsi, effectivement, créer de la relation. Sauf que, bien évidemment, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que quand on donne à des gens qui sont de membres de la famille ou qui achètent ce bien, on sort du clientélisme, on pourrait dire, un peu ordinaire, et on rentre dans des formes de corruption, c'est-à-dire d'échanges marchands. Hein. Le clientélisme, pour moi, ce qu'il caractériserait, si vous voulez, c'est que ça s'apparente au don. Je te donne quelque chose et donc je crée de la dette et on crée de la chaîne d'obligation sur la longue durée, quoi. La corruption, c'est je te donne quelque chose, j'ai pas le moyen d'exiger quoi que ce soit en échange et la relation elle s'arrête là et je suis prêt à négocier mon vote au plus offrant ou à donner à n'importe qui, voilà. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe et on peut comprendre effectivement que dans certains cas il y a des dérives, mais on ne pourra jamais complètement, à mon avis, l'éradiquer.
La frontière, il faut le dire, elle est ténue entre ce qui est légal et ce qui est illégal. Est-ce qu'on peut dire que le clientélisme, Philippe Pujol, est à Marseille, enfin, je reviens sur Marseille, non pas parce que le clientélisme, ça serait une spécialité marseillaise, hein, loin de là, il y a plein d'autres territoires
c'est
où on peut le constater,
oui.
Mais bon, il se trouve que vous, voilà, vous avez travaillé sur Marseille. Est-ce qu'on peut dire que le clientélisme, en tout cas, ça favorise certaines pratiques illégales?
La particularité du clientélisme, si c'est pas de la corruption, c'est bien pire, c'est du conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de la corruption. Il n'est même plus nécessaire d'acheter quelque chose. Tout simplement parce que par le clientélisme, quand il est permanent et perpétuel comme à Marseille depuis extrêmement longtemps, on a placé des hommes, on a placé des gens partout. Donc il n'est plus nécessaire de corrompre qui que ce soit, puisqu'on peut arriver à son objectif, qui est souvent un objectif de lobbying de grands groupes, c'est-à-dire on ne parle pas que du petit clientélisme du pauvre, on est sur du gros lobbying, qui fait qu'on n'a même plus besoin de faire de corruption, c'est très rare, et donc il suffit d'avoir des gens placés au poste clé.
Et peu importe d'ailleurs qui sont ces gens, alors je voudrais que vous nous parliez d'un des personnages de votre livre, Boumediene Benabar, 5 mentions à son casier judiciaire, dont une tentative de meurtre, et qui lui était un des maillons du système clientéliste qui avait été mis en place par la députée socialiste Sylvie Andrieux, qui a eu quelques ennuis avec la justice à cause de ça, justement. Donc lui, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément extrêmement fréquentable, mais qui se retrouve à la tête de tout un tas d'associations, justement dans une démarche clientéliste.
Lui, en plus, c'est vraiment juste pour faire du fric, il le dit au procès. Lui, il a aucune idéologie derrière. Lui, c'est un voyou, il le dit. Il a des codes de voyou, c'est-à-dire il parle pas jusqu'au bout. C'est quand on trahit Sylvie Andrieux qui dit, bah, puisqu'on l'a trahi, moi je vais me mettre à parler. Donc il a des codes bien précis. Il a un certain pouvoir en tant que comme fort d'un quartier, et donc on lui dit, bah, écoute, tu n'as plus qu'à, on te donne des sous via des assos, et tu nous ramènes, bon, déjà des couleurs d'affiches classiques, et surtout tu viens dire du bien de temps en temps.
Mais c'est pas des associations de couleurs d'affiches, hein, c'est évidemment
des associations
là, autres. Mais
là, on était dans des cas extrêmes, on était dans des associations fictives, donc là, elles n'existaient même pas. Je suis même pas sûr que Sylvie Andrieux connaissait ce monsieur. Je pense qu'en fait, c'est toute une chaîne clientéliste qui fait qu'elle, elle l'a laissé faire. Voilà, vous me faites un bon petit réseau clientéliste et ensuite c'est d'autres personnes qui s'occupent de faire ça. Et on retrouve dans les petits réseaux clientélistes associatifs des gens qui ont des parcours étonnants, c'est-à-dire des gens qui étaient hyper militants, hyper politisés à un moment, qui y ont cru, qui ont eu des échecs. C'est le cas de quelqu'un qui s'appelle Zerwal, qui est toujours dans cette affaire-là, qui a eu tellement d'échecs qu'au bout d'un moment, il a abandonné l'idée de devenir un militant associatif, puisque le clientélisme faisait qu'il ne pouvait pas devenir patron d'un centre social, parce qu'il y en avait d'autres qui arrivaient avant. Donc il est tombé un peu dans la voyoucratie, un peu bandit, puis il est redevenu, il a eu un poids donc sur le quartier, et il est devenu un des maillons importants de ce clientélisme-là associatif.
Séverine Tessier, le milieu associatif, est-ce que c'est un milieu particulièrement vulnérable aujourd'hui au clientélisme ?
Dès lors qu'il est tributaire des subventions publiques, absolument, il y a même parfois un intérêt politique local à créer des associations destinées à faire la propagande, en fait, ou à recueillir des fonds publics pour indirectement alimenter les campagnes électorales. Et quand je parlais tout à l'heure de caractère institutionnalisé de la corruption, et là, ce n'est pas qu'à Marseille, je l'ai constaté partout en France. J'ai moi-même été élue locale dans les Hauts-de-Seine, j'ai fait un travail sur la Polynésie, mais je l'ai constaté dans des lieux moins emblématiques, on va dire. Le clientélisme fait partie du système de fonctionnement de la démocratie locale et nationale. Et donc, c'est beaucoup d'associations qui, aujourd'hui, n'auraient pas lieu d'être si on regardait autrement les critères d'attribution de subventions de manière objective, si on les conditionnait notamment à une transparence, une rigueur, et à une activité réelle. Il y a beaucoup d'associations, je l'avais vu en Polynésie, mais c'était le cas un peu partout aussi, ailleurs en tout cas, des associations qui perçoivent des subventions alors qu'elles n'ont aucune activité. Et c'est si vrai d'ailleurs que malheureusement, il est très facile d'attribuer ces fonds, et parfois tout simplement sur la base de rapports, de techniques, ou on va dire tout simplement qui ne sont pas contrôlés.
Et les chambres régionales des comptes ne sont pas censées justement contrôler la nature de ces associations ?
Les chambres régionales des comptes sont malheureusement saturées et elles disent beaucoup de choses dans leur rapport, des choses très intéressantes qui ne sont pas toujours suivies des faits au plan judiciaire, alors que même des fonctionnaires tirent la sonnette d'alarme, certains exercent leur devoir d'alerte. Et malheureusement, nous, on avait même déposé une plainte en Corse concernant l'attribution d'une subvention à une association qui n'était pas basée en Corse, qui n'avait pas d'activité en Corse. Mais voilà, ça en dit long aussi sur le fait que la décentralisation permet aussi la diffusion du clientélisme et ce que l'on pourrait caractériser de système mafieux à l'échelle locale.
Est-ce que vous êtes d'accord, Frédéric Savicki, justement, alors sur l'effet pervers de la décentralisation permettrait d'accentuer justement le recours à ces méthodes clientélistes? Est-ce que c'est pas aussi une façon peut-être de remettre en cause cette décentralisation et du coup d'aller vers un discours qui dirait il faut qu'on rapatrie une partie de la politique à Paris?
Alors oui et non, c'est-à-dire que la décentralisation, ça se traduit quand même bien souvent par le développement de ce qu'on appelle le gouvernement multiniveau, c'est-à-dire que les associations, par exemple, dont on parlait, ou les politiques d'investissement, les politiques foncières, tout ce qu'on voudra, impliquent souvent maintenant de devoir mobiliser à la fois l'intercommunalité, la mairie, le conseil général, le conseil régional. Alors ça peut effectivement tout à fait, c'est quand il y a des accords ou quand les gens débouchaient sur des pratiques de corruption ou de clientélisme, mais en même temps c'est un peu plus compliqué à mener parce que il faut en quelque sorte convaincre plusieurs bailleurs, hein, et l'État n'a pas complètement disparu, donc je dirais qu'il faut faire quand même assez attention. Par exemple, maintenant beaucoup de les politiques de logement sont maintenant souvent gérées au niveau des intercommunalités, hein, alors qu'avant elles étaient souvent gérées par le maire, et donc je dirais que les élus de droite et de gauche sont un peu sous surveillance mutuelle. Bon, alors ceci dit, ça n'empêche pas qu'ils puissent se mettre d'accord pour chacun, en quelque sorte, rétribuer leur propre clientèle. Mais bon,
quand les territoires sont plus grands, ça rend peut-être plus compliqué le contact direct.
Exactement, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Alors, par ailleurs, selon les territoires, il y a quand même des problèmes. C'est-à-dire que donner trop de choses de façon clientélaire peut aussi vous mettre à dos tous ceux qui n'en bénéficient pas. Ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire que le système clientéliste, il trouve ses limites, hein, dans le fait que quand il y a beaucoup de choses, beaucoup de demandeurs et peu de choses à distribuer, vous faites plus de frustrés que d'heureux, quoi. Et donc, je dirais qu'il y a une régulation qui s'opère aussi comme ça, c'est-à-dire que, qui peut s'opérer. Alors, je ne dis pas qu'elle s'opère partout à Marseille, mais en tout cas à Paris, par exemple, on a vu la contestation qu'il y a eu l'élection de la gauche à Paris en 2001 doit beaucoup à la contestation du système de corruption qui avait été mis en place sous les municipalités précédentes et avec obligation finalement pour les élus de mettre en place des dispositifs un peu plus je dirais contrôlés, hein. Je sais pas que là. Donc on voit quand même que c'est pas dire que la décentralisation en soi favoriserait ça, c'est que ça favorise aussi quand même des dispositifs de contrôle de mutuel. Alors après il faut s'interroger pourquoi dans certains coins, on parlait de évidemment par exemple de certains territoires d'outre-mer ou de Marseille, là évidemment ces contrôles-là fonctionnent très très mal, mais Marseille comme par hasard c'est une des villes où justement l'intercommunalité s'est développée de façon la plus lente, hein, pour ne pas dire parce que les élus refusaient de perdre ça. Bon.
D'ailleurs, la guerre actuellement, il y a la mise en place de la métropole avec un retard phénoménal et qui donne lieu à un spectacle assez grotesque, assez pathétique de combat entre les différents élus, d'ailleurs d'un même parti. C'est bien triste quand on le voit. Ça peut faire rire, vaut mieux en rire d'ailleurs. Mais en même temps, on comprend bien qu'il y a une guerre de clientélisme, c'est-à-dire qu'ils veulent pas perdre chacun leur propre clientélisme. Là où aussi où il y a une petite régulation qui peut se faire, c'est que les clientélismes s'affrontent les uns les autres, puisque chaque élu a le sien, et même au sein d'un même parti d'ailleurs. Et donc il y a des affrontements durs de clientélisme, c'est le cas actuellement avec la métropole. Après il y a un autre élément qui est vachement important, pour rendre efficace le clientélisme, il faut justement, il y a énormément de mécontents, il y a bien plus de mécontents que de gens qui en bénéficient, sinon ça serait un bon système. Alors la solution, c'est de faire que les gens ne votent plus, que les mécontents ne votent pas. Et donc on a assisté dans les quartiers populaires de Marseille et de la France entière à une déconscientisation exceptionnelle. Il n'y a plus de conscience politique dans les quartiers populaires, quasiment plus, ça a quasiment disparu. Et c'est notamment lié, on va dire que c'est un peu lié avec la chute du PCF par exemple, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que quand on supprime la culture tout le temps, on supprime aussi la conscientisation de ces quartiers.
Mais Frédéric Savic, est-ce que le clientélisme pourrait pas aussi avoir l'effet inverse, ou n'a pas pu avoir l'effet inverse, de conscientiser justement les électeurs, c'est-à-dire en les obligeant presque à s'impliquer, alors parfois de manière fictive, mais peut-être pas toujours, dans la vie du quartier, dans la vie du territoire. Ça pousse certains aussi à s'investir,
c'est,
non ?
C'est intéressant de revenir sur le cas du Parti communiste, mais on pourrait aussi parler du Parti socialiste dans certaines régions ouvrières, c'est-à-dire que dans l'esprit des élus, des dirigeants communistes de la banlieue rouge parisienne, par exemple, on mêlait en même temps ce qu'on appellerait le clientélisme, c'est-à-dire le fait qu'il faut donner en priorité aux camarades du parti, aux ouvriers qui sont menacés éventuellement de perdre leur emploi par l'entreprise, par exemple, parce qu'ils font grève, donc on va recaser dans la municipalité des militants syndicaux qui ont été chassés dans leur entreprise. Et donc, c'était la distribution privilégiée aux membres du groupe était pensée comme une manière de donner la priorité à la classe ouvrière.
Hein, c'était une époque où il y avait beaucoup de choses à distribuer.
Et en plus, bien
donc,
sûr.
Donc aujourd'hui, on n'est plus là-dedans.
Tout ça a été mêlé. Et donc, du coup, effectivement, on était d'autant plus redevable au parti en croyant en lui qu'effectivement, il nous donnait aussi les moyens, pour dire, d'une émancipation de conditions matérielles assez satisfaisantes. Aujourd'hui, on peut dire que ces deux niveaux sont complètement déconnectés. C'est-à-dire que le cas qui était cité tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont, dans des réseaux de clientèle avec des élus PS qui pourraient tout à fait être avec le Front National ou avec.
D'ailleurs, ils passent de l'un à l'autre.
Et il passe de l'un à l'autre. Là, on est devenu effectivement toute la dimension politique a complètement disparu. Alors qu'avant c'était assez inconcevable. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous aviez un rapport de clientèle avec un élu communiste que tout à coup vous alliez négocier votre vote vis-à-vis d'un élu de droite ou du PS. Vous étiez lié quand même parce que les relations justement étaient établies dans la longue durée. Alors qu'aujourd'hui elles deviennent instrumentales. Et c'est pour ça que je pense qu'on est plus dans l'ordre de la corruption et dans la transaction marchande, si vous voulez, que dans ce que traditionnellement on appelle plutôt disons d'un point de vue de sciences sociales, des relations de clientèle.
C'est vrai, Ntessier, le clientélisme, ça ne permet pas l'émancipation de certaines populations.
Et clairement, et donc je parlais du caractère structurel qui tient à la décentralisation et au système électif à travers l'organisation des partis, mais c'est justement et précisément le moyen par lequel on empêche l'égalité républicaine, puisque si tout n'est que passe-droit, si tout n'est que rapport marchand, le plus grand nombre, finalement, est oublié, abandonné par les pouvoirs publics. Et donc, en organisant des rapports de clientèle, on va dégoûter les autres qui, de fait, ne voteront plus. Et on s'assure un électorat choyé par les dividendes de l'action politique, donc qui devient de plus en plus restreinte à un certain corps social, celui qui accepte la soumission aux élus en place, lesquels cumulent et entretiennent leur pouvoir. Donc c'est aussi une question d'excès de pouvoir, parce que je ne sais pas quelle expérience les autres intervenants ont, mais moi sur le terrain depuis 13 ans, je vois que le clientélisme est partout. Il permet aux élus de se reconduire en fonction, y compris des élus condamnés pour corruption. Et donc ça déconscientise effectivement, parce que la seule valeur c'est l'argent aujourd'hui, c'est la valeur marchande, mais ça tient aussi à la faiblesse des contre-pouvoirs, parce que les citoyens, même ceux qui ont une conscience du clientélisme, n'ont pas aujourd'hui les moyens de se faire entendre, ils n'ont pas suffisamment de moyens de peser sur les choix politiques, et c'est également la raison pour laquelle nous en appelons, et précisément dans ce livre, à la conquête d'un pouvoir citoyen, pas seulement un contre-pouvoir, mais le but étant de se réapproprier la chose publique. Je cite un exemple, c'est celui de la commune de Saillant, où les élus...
Qui seront vous, pardon ?
Et la commune de Saillant dans la Drôme, où des élus et un collège de citoyens tirés au sort participent en même temps au choix et au contrôle de l'application des décisions politiques. Ça, c'est un bel exemple de démocratie locale au service de l'intérêt général.
En même temps, on pourrait penser donc que le clientélisme, finalement, ça conduit à abandonner un certain nombre de territoires. Or, Philippe Pujol, vous dites, les quartiers, appelons-les difficiles, prioritaires, je sais pas comment vous voulez les appeler, mais ne sont pas abandonnés à Marseille. C'est-à-dire, il y a aussi beaucoup d'argent qui circule du fait du clientélisme. Et que ça crée quoi? Alors, une forme d'immobilisme social dans ces quartiers? C'est-à-dire qu'on on maintient les gens à un niveau suffisant de pauvreté pour pas qu'ils bougent trop, mais à un niveau suffisant aussi de bien-être pour qu'ils ne soient pas non plus ou qu'ils aient au moins envie de voter pour les personnes qui les subventionnent.
Alors j'ai bien peur que ce soit même pas pensé tout ça, c'est-à-dire que il n'y a pas non plus une maîtrise aussi bonne de la chose. Toujours est-il que dans les Bouches-du-Rhône, en 10 ans, il y a eu plus de 4 milliards d'euros d'injectés. Ça sera jamais assez, mais c'est déjà pas mal. Et que quand on regarde comment fonctionne l'aide sociale via l'associatif, il y a une déperdition phénoménale d'argent, puisque sur un gamin, par exemple, sur un gamin qui est un peu à la dérive, plusieurs associations vont travailler en même temps dessus, parce que le gamin a une valeur soudain. Ce gamin-là va valoir 40 euros au jour quand il a telle mesure, 8 euros au jour sur une autre mesure, donc on va plutôt lui donner une mesure à 40 euros au jour, alors que 8 suffirait. Et des fois, plusieurs assos vont bosser sur le même gamin, en ayant des contradictions, donc on a aucune efficacité sur le gosse, qu'on va pas récupérer, et on a dépensé beaucoup de fric pour rien. Et alors certes, on a légèrement alimenté un petit peu de l'emploi associatif, mais en tout cas, il y a une déperdition phénoménale. Et pourtant, il n'y a pas un abandon, parce qu'il y a une grosse présence associative, parce qu'il y a une présence d'État, ou en tout cas des institutions, qui est forte. Mais il y a une inefficacité dramatique. Et voilà, il faudrait déjà, on est toujours en train de parler de symbiose, de faire les choses ensemble, c'est du vent, c'est justement parce qu'il y a une prise, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas, alors ils disent qu'il faudrait se mettre ensemble pour que ça marche mieux, mais quand ils se mettent ensemble, ils dépensent plus d'argent.
Est-ce que ça crée une forme d'inertie sociale, Frédéric Savicky ?
Il faut quand même dire que la relation de dépendance vis-à-vis d'un élu ou d'un responsable associatif, elle est d'autant plus forte que vous n'avez pas d'emploi, que vous êtes mal logé, que vous habitez dans un quartier où il y a peu de services publics et que vous êtes tributaire effectivement de diverses formes d'aide. La réflexion aussi qu'il y a à avoir, bon, ça a été pointé dans la polémique qu'il y a eu au début de la semaine sur l'état des écoles, par exemple à Marseille, c'est effectivement cette manière très distordue, si on peut dire, d'allouer effectivement les ressources. Les élus préfèrent, dans ces quartiers, effectivement, contrôler, on pourrait dire, à personnaliser les distributions d'avantages ou de petits avantages. C'est souvent des très petits avantages.
Ça dépend plutôt, effectivement, à qui on s'adresse, en fait, hein, la nature des avantages.
Oui, tout à fait. Mais alors ça, c'est le premier élément. Donc la pauvreté, puis l'absence de contre-mobilisation. Là, on parlait tout à l'heure des mobilisations citoyennes pour dénoncer le clientélisme. le clientélisme ou la corruption, mais il faut que ces dénonciations, elles viennent de ces quartiers et pas, j'allais dire, d'en haut, parce que quand on a besoin de rien, c'est très facile, au fond, de dénoncer, il faut le faire, mais il faudrait aussi, effectivement, que les mobilisations associatives, là, cette fois-ci indépendantes, issues de ces quartiers, réclament qu'on nous améliore des écoles, qu'on construise, effectivement, des logements de qualité. Oui, ça existe.
Ça existe.
Mais la question, c'est le poids politique qu'ont ces associations.
Sur les écoles,
sont souvent, effectivement, très insuffisantes, on va dire.
Sur les écoles, il y a quelque chose d'encore plus mesquin que ce qu'on peut voir. C'est-à-dire, sur les écoles, il y a un autre clientélisme sournois derrière. C'est-à-dire qu'on avantage les écoles privées. C'est flagrant. Mmh. D'ailleurs, plusieurs fois, Jean-Claude Gaudin s'en est vanté en disant « j'ai multiplié par deux ce qui est alloué aux écoles privées ». Mais c'est pas uniquement pour des raisons idéologiques de mettre ça au privé. Déjà, ça permet, une fois qu'on met des aussi élèves dans le privé, il y a de l'idéologie, il y a du pratique aussi. C'est-à-dire, quand on met dans le privé, on n'a plus à gérer ça au niveau du public. Et la dernière chose, c'est surtout, ça fait d'un seul coup une valeur clientélaire. C'est-à-dire que quelqu'un te demande une place à l'école, la carte scolaire, c'est pas toujours simple à faire sauter, alors que là, avec le privé, on a la maîtrise totale. Donc c'est aussi pour maintenir quelque chose au niveau clientéliste. Des associations qui travaillent dans le sens citoyen, il y en a une qui est marquante à Marseille, qui s'appelle Un Centre-Ville pour tous, qui est la réunion d'habitants, donc c'est l'hypercentre de Marseille, réunion d'habitants, d'urbanistes, d'intellectuels, il y a des sociologues au milieu.
Parce que dans le centre de Marseille.
Ça a bien marché. Et puis, ils sont tellement pas soutenus par aucune institution, c'est des cailloux dans la chaussure, que là, il y a une usure, il y a une fatigue. Des petits jeunes, des jeunes derrière essayent de reprendre, mais c'est compliqué. Donc voilà, on t'empêche de toute façon d'aller de l'avant. Mais quand même, il y a une volonté, ça se bagarre. Hein. Et après, dernière chose, j'aimerais qu'on fasse attention, on parle que du clientélisme associatif, qui pour moi, bon, le plus flagrant, le plus évident. Mais à Marseille, on a le clientélisme syndical avec Force Ouvrière, qui est quand même quelque chose d'important. Il y en a quand même le clientélisme qui est fait avec tout ce qui est grands groupes, avec les lobbies. Et celui-là, il est encore plus néfaste, je pense, que l'associatif.
Sauf qu'on parle peut-être moins spontanément dans ces cas-là de clientélisme, Séverine Tessier.
Oui, mais enfin pour moi, c'est toujours le mot corruption. Hein. Clientélisme, c'est un joli mot, c'est une forme esthétique pour réduire ça de manière, je dirais, commerciale. Mais si on veut toucher à l'éthique et à la morale publique, partout, malheureusement, le clientélisme et la corruption existent. Et d'ailleurs, c'est quand même un des sujets qui montre, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment, que partout où l'État recule, en fait, le clientélisme se développe. Et en fait, ensuite, les élus choisissent simplement leur référent, chef de clan ou leader syndical. Et c'est bien plus commode, bien plus pratique pour ensuite tenir tout le monde par des jeux d'influence ou peut-être plus des enveloppes, mais en fait de manière à faire en sorte que les choses soient bien bouclées et non plus avoir à convaincre. Donc c'est de la corruption et dans différents domaines. Par ailleurs, et là quand même il y a quelque chose qui nous interpelle en tant qu'association, c'est que les élus ont tendance à se décharger sur les associations de fait de la diminution de la puissance publique et on attend de nous des choses en fait qui relèveraient des services publics. Donc parfois ça peut avoir un effet de compensation, mais nous touchons aux limites de l'exercice de travail associatif et ce ne sont pas quelques subventions qui aideraient les uns ou les autres à faire un travail que ne font plus les services publics. D'ailleurs, nous n'avons pas la légitimité pour le faire. Donc en fait, le clientélisme entretient un phénomène mafieux et clanique qui est au profit des élus.
Et en plus, ça marche, je voulais dire, ça marche avec tous les élus, c'est-à-dire y compris le Front National. Souvent, le Front National se pose comme une sorte de chevalier qui va pourfendre le clientélisme, alors que, je prends toujours l'exemple de Marseille, mais c'est valable partout, le Front National est éminemment clientéliste et un rouage important du clientélisme. Et on a une mairie de secteur à Marseille dans les quartiers nord qui est tombée au Front National. L'un des premiers trucs qu'il a fait, j'en parle dans mon livre, c'est de ramener des associations extrême droite, de les ramener vite dans les quartiers, dans ces zones-là, pour s'étendre. Et donc, il y a derrière tous les avantages, tous les atouts. Et là, il est en train, Stéphane Ravier est en train d'essayer de détruire tout ce qu'il y a de culturel sur son secteur. Et quand on détruit la culture, on est sûr derrière de pouvoir fonctionner. Quand il n'y a plus rien, les gens sont faciles à acheter derrière. Donc le Front National est même à la création du clientélisme à Marseille depuis bien avant que le Front National existe déjà. L'extrême droite a créé le Front National, le clientélisme à Marseille.
Alors pour terminer, Frédéric Savéki, pour si ce n'est en finir avec le clientélisme, mais en tout cas au moins le limiter. D'abord, Séverine Tessier parlait de cette réaction citoyenne qui peut être utile, mais est-ce qu'il y a aussi des changements structurels à apporter ? Par exemple, quand on fait du clientélisme, il faut avoir quelque chose à offrir. Pour avoir beaucoup de choses à offrir, c'est sans doute intéressant de cumuler les mandats. Est-ce qu'on pourrait imaginer que interdire le cumul des mandats, ça favorise la lutte contre le clientélisme ?
Écoutez, c'est compliqué. Ça le rend plus compliqué de façon à être mis en œuvre, mais on ne peut jamais exclure que ça renforce là des liens, on pourrait dire, d'échanges horizontaux entre élus. C'est-à-dire que je ne cumule plus de mandats, mais en tant que conseiller départemental ou conseiller régional, en tant qu'adjoint, etc., on va se mettre d'accord, en quelque sorte, entre nous pour essayer de réorganiser un peu la distribution des biens. Donc c'est pas non plus, je dirais, la panacée. On ne pourra jamais totalement faire de la politique, enfin de la politique et de la politique publique un espèce d'univers glacé où tout serait décidé selon des critères normatifs, c'est-à-dire en quelque sorte le logement, vous remplissez des cases, on sait aussi que ça pose tout un certain nombre de problèmes.
En revanche, ce qu'on appelle la bureaucratie, c'est pas forcément voilà, plus souhaitable,
la multiplication pas toujours, effectivement des règles. Bon, alors on peut toujours souhaiter que les acteurs soient davantage vertueux, mais tant qu'il y a effectivement, on pourrait dire de la demande, tant qu'il y a des gens qui ont besoin effectivement d'intercessions multiples et évidemment le chômage, les difficultés économiques, les difficultés de logement étant telles, les augmentations du prix de l'immobilier dans les grandes villes de France ont des effets qui font que la ressource d'un logement social aujourd'hui représente énormément d'avantages. Donc travaillons aussi là-dessus et c'est, à mon avis, d'abord comme ça qu'on fera diminuer un petit peu les pratiques clientélaires.
C'est vrai que la relation humaine reste importante, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi arrêter avec le métier de politique ? C'est-à-dire qu'on prend Jean-Claude Gaudin, il a 124 ans de mandat maintenant, parce qu'il a cumulé, parce qu'il est partout. Est-ce qu'on ne doit pas avoir une période courte pendant laquelle on fait de la politique, et avant et après on travaille ?
Alors, il ne s'agit pas seulement de limiter le cumul des mandats, mais aussi la durée des mandats. Voilà, dernière séquence du Grain à Moudre, comme chaque vendredi, comme chaque fin de semaine, avec Lops et François Armanet. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Responsable des pages débat de Lops. Vous nous proposez cette semaine un dialogue entre Bernard-Henri Lévy et Jean Daniel sur la nouvelle question juive.
Oui, un dialogue au sommet cette semaine. Il aurait été difficile à quiconque de ne pas savoir que Bernard-Henri Lévy sort en tout cas un essai qui s'appelle « L'esprit du judaïsme ». Donc on voit BHL un peu partout, mais nous on a Jean Daniel, c'est-à-dire que si Bernard-Henri Lévy publie l'esprit du judaïsme, Jean Daniel, donc le fondateur de l'Obs, lui avait publié La prison juive. Donc là il y a un vrai débat qui est un débat historique, philosophique, politique et aussi métaphysique, je dirais, qui est mené dans le journal et avec des points d'accord, mais aussi de féroces oppositions. Y compris par exemple sur une question très actuelle qui est celle de l'antisémitisme actuel en France ou du nouvel antisémitisme et de... Alors là je vais les citer. Pour Jean Daniel, il ne conçoit pas qu'un Français juif quitte la France et il ne voit surtout pas d'obligation à ce qu'il se rende en Israël, en disant quel surcroît de conscience, d'affection et de patriotisme lui rendrait tolérable là-bas les souffrances jugées insupportables ici. Car après les révélations qu'il y a eu sur le meurtre de Rabin, qui avait suggéré en tout cas quasiment l'implication d'un véritable État dans l'État, on prouve que toute idéalisation serait illusoire aussi en Israël. Mais du côté de Bernard-Henri Lévy, s'il pense aussi que les Juifs ne doivent pas partir, c'est parce qu'ils ont, comme le dit-il, et je le cite, fait la France. Et oui, je le cite encore, quand vous enquêtez comme je l'ai fait sur la naissance de la langue française, sur l'origine de la France comme idée, sur l'archéologie de notre notion de république ou de souveraineté, vous voyez à chaque pas ou presque la prégnance de cet esprit, de ce génie du judaïsme. Donc certaines oppositions, et aussi évidemment sur Israël, parce que du côté de Bernard-Henri Lévy, lui, il loue en tout cas la démocratie intacte d'Israël, liberté de la presse absolue, et une minorité arabe qui jouit de tous les droits des citoyens. et une telle liberté qui ferait en tout cas pâlir d'envie les apôtres français de la diversité.
Est-ce qu'il n'est peut-être pas exactement la vision de Jean-Daniel ?
Ce qui n'est pas exactement la vision de Jean-Daniel, même si lui a été aussi tout à fait exalté et inconditionnel de l'État juif dans ses origines, mais il pense que depuis 67, l'héroïsme de Tzahal a enivré les Israéliens, et là je le cite, d'une exubérante insolence, qui les fait mépriser depuis les Palestiniens, aller demander à ceux des territoires ce qu'ils pensent au quotidien du formidable tableau de BHL.
Voilà, c'est donc à découvrir dans le dernier numéro de l'Obs. Merci beaucoup François Armanet, merci à nos trois invités, Frédéric Savicky, Séverine Tessier et Philippe Pujol. Je rappelle le titre de votre livre, Philippe Pujol, La fabrique du monstre aux éditions Les Arènes. Pour réécouter l'émission, c'est comme chaque jour sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Cyril Baer, Hugo Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Edouard Rubinstein. Lundi, l'avenir de l'Europe se joue-t-il sur la crise des migrants ? C'est la question que nous poserons à partir de 18h20